Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Gilles Pialoux, bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques.
Chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. L'infection Covid n'est pas terminée, le virus est toujours là. On va parler de cette actualité qui est sans doute et toujours l'actualité numéro un et la première préoccupation des Françaises et des Français qui nous regardent. Alors faisons un peu le point sur cette épidémie de Covid. Où est-ce qu'on en est ? L'épidémie n'est pas terminée, je le disais, le nombre de cas baisse depuis plusieurs semaines, mais attention, ces derniers jours, la baisse s'est ralentie. Gilles Pialoux ?
Oui, il y a quelques données. Alors, il faut regarder par région.
Prudent,
il y a quelques
données. Où en est-on ?
Alors, où en est-on ? C'est simple. On a un reflux de cette quatrième vague qui est tout à fait saisissant et qu'on voit sur le terrain. Hein. Je regardais ce matin les disponibilités des lits à Tenon. Dans mon service, il y a 8 lits dédiés. On a 6 malades. Et surtout, la réanimation qui avait 7 lits dédiés avait 2 malades. Donc, on est. Voilà, en gros, c'est un reflux. Mais ce n'est pas la marée basse. Donc il y a encore une circulation virale, il y a plein de zones d'incertitude, on y viendra peut-être, hein, l'école d'une part, les vaccinés, comment ça circule chez les vaccinés.
Oui.
Donc on est extrêmement prudent, on a du mal à transformer ça en joie. Alors, c'est un répit qu'on goûte, mais avec effectivement à la fois le passif, hein, l'épuisement des équipes soignantes, et puis aussi l'inquiétude de comment ça peut recirculer.
Ça veut dire que le virus n'est pas sous contrôle.
Bah disons que la vague est en tout cas contrôlée par l'effet de la vaccination et du pass sanitaire. Il faut le dire clairement, c'est le pass sanitaire et la vaccination, plus le maintien des mesures barrières. Je regrette qu'on soit le jour où justement on enlève les masques dans l'école, mais bon, on verra l'impact que ça peut avoir. On peut en discuter de ça, mais je pense qu'effectivement, on a une chance d'avoir
pass sanitaire et vaccin. C'est efficace.
Oui, je crois qu'il faut rendre
grâce. Ces deux mesures ont été efficaces.
Il faut rendre grâce au ministre de la Santé d'avoir tenu, d'avoir tenu bon par rapport aux incertitudes, par rapport au mouvement anti-pass. Et on voit l'efficacité de cette mesure. Elle est indiscutable. En métropole, mais aussi dans les départements où ça diminue au prorata, effectivement, de la vaccination qui augmente doucement en Guyane et aux Antilles.
Mais on n'est pas à l'abri d'un retour épidémique.
On n'est pas du tout à l'abri, personne peut prédire.
Avec le temps, les saisons changent, on n'est pas à l'abri.
Alors, je vais faire le point avec le sujet d'avant, c'est comme la météo. C'est-à-dire qu'on a une prévision à 7 jours, au-delà c'est le brouillard. Donc on n'a pas de prévision de ce qui peut se passer par rapport à une modification de la saison. Hein. On pense à l'automne, on pense aussi à la circulation virale chez les non-vaccinés, donc effectivement plutôt les enfants et les plus jeunes, et effectivement l'apparition possible d'un autre variant.
Conseil de défense ce matin, le pass sanitaire, on a beaucoup parlé du pass sanitaire, le comité scientifique ne conseille pas un allègement selon les régions. C'est ce qu'il dit. Faut-il alléger cette mesure ?
Non, mais il y a des décisions qui sont politiques, vous avez compris. L'ablation du masque à l'école, c'est une décision politique. Le fait de ne pas dépister les enfants, c'est une décision politique. Vous l'avez vu, il y a un grand écart parfois entre ce que le conseil scientifique réclame et la décision. Mais chacun est dans son boulot. Le conseil scientifique conseille, le décideur décide.
Faut-il le supprimer ? Faut-il alléger ou faut-il le maintenir ?
Le problème, c'est d'être... Il y a deux problèmes, en fait, nouveaux. Il y a un consensus scientifique global, enfin européen, qui dit qu'en fait, zéro Covid, on oublie, le Delta, ça va pas. Zéro Covid, on fera pas. En même temps, c'est-à-dire laisser circuler, on sait que ça donne des taux de décès comme en France, autour de 150 pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Hein. Je le rappelle quand même, on a eu quand même 118 000 décès en France. On a quand même payé très cher cette crise. C'est pas un problème de responsabilité, c'est un constat. Donc on est plutôt dans une situation intermédiaire, qui est la situation de suppression, de suppression, le maximum de suppression et de réactivité. C'est ce que les Danois nous ont montré. Danois, c'est un petit pays, hein, mais c'est la taille de l'Occident. Vous qui connaissez bien, mais ils ont été les premiers à confiner, les premiers à faire le pass, mais le premier à dépasser, si je puis dire, c'est-à-dire enlever le pass, enlever le masque. Donc les Danois nous ont appris quelque chose, c'est-à-dire que c'est la réactivité. Comme on ne peut pas prédire ce qui va se passer, il faut donner des guidelines, enfin des recommandations de réactivité si le virus circule, et donc d'avoir des indicateurs pour ça.
Des indicateurs pour ça, bien.
Et des indicateurs fiables.
plus de masques, donc, pour les élèves des écoles primaires, dans 68 départements. Dans 68 départements. C'est une bonne mesure ou pas? Est-ce qu'il fallait décider
cela?
C'est
une mesure politique. Alors, j'entends. J'ai moi-même des enfants en scolarité et au collège. J'entends effectivement les plaintes. Mais attendez, il y a aussi une fake news là-dessus. Il n'y a pas une étude scientifique. Il n'y a pas une étude scientifique digne de ce nom qui montre l'effet délétère du masque chez l'enfant. Alors, j'entends les psychologues, j'entends les parents, j'entends les associations de parents d'élèves. Mais on n'est pas dans la science là. On est dans le ressenti
Le masque, les enfants portent masque.
C'est pas à vie, c'est dans l'incertitude. Oui. Parce que là, il vous a pas échappé que l'embellie qui est actuelle, la calmie, il y a une incertitude derrière de ce qu'on voit derrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours.
Donc prudence.
Vous
n'auriez pas pris cette mesure.
C'est le conseil scientifique. Hein. On aurait voulu qu'on décale.
Oui. Vous n'auriez pas pris cette mesure.
Je ne suis pas décideur, mais
vous êtes médecin et vous êtes infectiologue.
En tant que médecin, je suis surpris qu'on prenne des décisions en milieu scolaire sans savoir comment circule le virus à l'intérieur du milieu scolaire, parce qu'on ne le sait pas.
Oui.
Et on ne le sait pas. On ne dépiste. J'ai regardé là.
Dépistage. Alors il y a une expérience.
C'est juste un chiffre. J'ai regardé les données de la semaine du 13 septembre fournies par l'Éducation nationale. Ils ont dépisté 0,01% des élèves. Voilà, donc on ne sait pas comment circule le virus. Et en plus, les parents ont plutôt une tendance, ce que je comprends, j'entends dans les sorties d'école, c'est que quand un enfant est malade, on a plutôt tendance à pas le dépister, parce que si vous le dépistez, la classe va être fermée, il va être exclu. Donc il y a un recul du dépistage spontané.
Alors, il y a un nouveau protocole sanitaire qui est expérimenté dans 10 départements. L'idée, c'est la demande du conseil scientifique. L'idée, c'est un dépistage systématique et hebdomadaire dans les écoles. C'est bien ou pas, ça?
Mais c'est évidemment que c'est bien.
Et
pourquoi passer par l'expérimentation?
La classe ne sera pas fermée.
Oui, mais ça a été démontré. Il y a eu des modélisations qui montrent, en gros, quand vous faites le système, comme le font les Autrichiens, de dépister les enfants par des tests salivaires, donc c'est pas agressif.
Oui.
Par exemple, 2 fois par semaine.
Oui.
Vous fermez quasiment pas de classe. Et on a fait une modélisation.
On isole immédiatement.
Exactement. Exactement. Et ça va être testé. Alors voilà, conseil scientifique le recommande. On a pris une demi-mesure qui est testée. Bon, voilà, c'est une décision politique.
Pourquoi on ne va pas jusque-là?
Je ne sais pas, il faut demander au ministre.
Je demanderai au ministre de l'Éducation nationale. Les tests, le 15 octobre, vendredi, pas demain, celui d'après, les tests de dépistage ne seront plus remboursés, sauf si l'on produit un certificat médical ou si l'on est vacciné.
C'est pour les adultes non vaccinés.
Pour les adultes, expliquer ça. Voilà. Ouais. 22 euros le test antigénique et 44 euros le test PCR. Fallait-il mettre fin à la gratuité?
Mais là aussi, c'est pareil, c'est une décision économique que je comprends.
Oui.
Et il y a plein de pays, moi j'ai voyagé en Europe, il y a plein de pays qui font payer depuis très longtemps les tests, donc on comprend la dimension économique. Là, on est dans une situation où on a quand même un retard de dépistage en France, on avance sur la vaccination, mais on a un retard sur le dépistage. Donc voilà, est-ce que cette décision économique va avoir un impact? J'ai vu que les biologistes ce matin disaient ça va diminuer de 80% le dépistage chez les adultes. Bon, ça c'est une très mauvaise nouvelle.
Celui qui est positif.
Sauf si c'est compensé par la vaccination, je ne crois pas. Mais il y aura une petite incitation
vaccinale.
Celui
qui est positif ou qui a été positif n'ira plus se faire tester, peut-être, je ne sais pas. Enfin, non. Quelles conséquences ça peut avoir?
Mais la conséquence, c'est qu'il y aura de toute façon un certain nombre de gens qui sont en attente de vaccination. Je vous rappelle quand même qu'on n'est pas à 100% de vaccination chez les gens qui y ont droit.
Non, mais ça peut inciter à la vaccination.
Ça va être incitatif, bien sûr. C'est en ça que cette mesure. C'est un pari aussi. C'est un pari sur l'incitation versus l'impact du dépistage. Mais je reviens à ma réactivité à la danoise. L'une des idées, c'est d'avoir en permanence des informations sur la circulation du virus, surtout chez les non-vaccinés, surtout en milieu scolaire, mais aussi chez les vaccinés. Donc, tout ce qui diminue l'offre de dépistage, pour moi, a un effet contre-productif. Voilà, c'est tout. Mais ça a aussi un effet incitatif.
Oui, mais vous...
Donc, on verra...
Vous ne prenez pas parti.
C'est qu'on verra qu'est-ce qui va gagner. Est-ce que c'est l'incitation?
Ça crée aussi une inégalité d'accès aux soins.
Alors, J'y venais. En plus, c'est extrêmement clivant. Le virus est lui-même clivant socialement. La vaccination est clivante, parce que vous savez très bien que tout le monde n'a pas accès à la vaccination en fonction de si vous parlez français, si vous savez ce que c'est qu'un code QR, si vous avez accès aux soins, etc. Et en plus, on rajoute une strate. On rajoute une strate d'inégalité. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui auront les moyens de continuer à ne pas se vacciner en se payant des tests à 22 euros.
À 22 euros, le test antigénique, et 44 euros, le test PCR.
Ouais.
Bon. Vous parlez de la circulation du virus chez les vaccinés.
Oui, ça c'est une zone d'ombre. C'est quelque chose qu'on a découvert.
Oui.
J'ai entendu dans les fake news, on disait oui, mais ils ont changé. On n'a pas changé. C'est le virus qui a changé. Le virus a changé. Le Delta.
Ça veut dire que le virus circule chez les vaccinés.
On l'a fait chez les soignants quand ils sont rentrés de vacances. On avait 30% de positifs qui étaient asymptomatiques parce que ça circule.
Mais encore une fois, rappelons que si on est vacciné, il y a moins de danger.
Rappelons l'essentiel. Oui, c'est que c'est un vaccin qui a été des vaccins, les ARN, qui ont été construits pour protéger contre les formes graves, protéger contre l'hospitalisation et protéger de la mortalité. Donc il n'y a pas photo sur cette efficacité-là, mais effectivement,
si on est vacciné,
ça
n'empêche
pas la circulation.
Si on est vacciné, on ne meurt pas.
On ne développe pas de formes graves, on a moins de risques d'être hospitalisé, et ça c'est indiscutable, même avec le variant Delta, mais effectivement, ça n'empêche pas la circulation.
Il y a 6 millions d'adultes encore à convaincre en France. 6 millions, c'est énorme. Alors,
Jean-Jacques, je ne crois pas que ce soit 6 millions à convaincre. Je pense que c'est peanuts ceux qui sont à convaincre. C'est qu'il faut aller les chercher.
Il faut aller
les
chercher. Ah bon, d'accord. Bon, 11 vaccins sont déjà obligatoires. Il y a débat au Sénat. Le groupe socialiste a déposé une proposition de loi pour rendre le vaccin contre le Covid obligatoire. Vous y êtes favorable ou pas?
Moi, je suis favorable sur l'élargissement de l'obligation vaccinale.
Oui,
je pense qu'une obligation vaccinale à toute la population, c'est quelque chose qui est compliqué en ce moment. Après, on verra s'il y a une cinquième vague. Je pense que ça sera effectivement assez constructif pour cela. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup d'instances qui se sont prolongées. C'est que il y a eu la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu la Cour de cassation. Enfin, on est en possibilité d'obliger la vaccination. Comme vous le dites, de 11 à 12.
Vous demandez l'obligation vaccinale ?
Moi, je suis pour une obligation vaccinale qui pourrait s'élargir à d'autres professions.
C'est-à-dire ?
Toutes les personnes qui sont en contact avec...
Avec du public.
Avec du public. Ça fait beaucoup de monde.
Obligation vaccinale.
Si les choses... Faisons les choses une par une.
Mais on
va voir s'il y a une incitation vaccinale par le fait que les tests sont non remboursés.
Mais le personnel soignant doit être vacciné. 1400 personnels soignants...
Troisième dose, ça a été recommandé hier.
Là, je vais vous parler à troisième dose. 1400 personnels soignants non vaccinés suspendus en Île-de-France, il y en a dans votre service ou dans votre hôpital ? Non ?
Des suspendus, dans mon service, sincèrement, sur 85 personnes, il doit y avoir une personne ou deux qui posent encore question, et je pense que les choses vont se régler.
Vont se régler.
Ouais.
Mais
on est un service qui a été extrêmement impacté, donc ça a un effet... incitatif.
La troisième dose, l'agence européenne...
Alors moi, je n'appelle pas la troisième dose, il faut appeler ça un rappel.
Parce que
la troisième dose, c'est l'idée que deux ne suffisent pas.
Ouais.
Là, c'est la notion de rappel.
Alors, six mois après.
Alors, c'est six mois après.
L'agence européenne des médicaments a approuvé à l'administration de ce rappel pour l'ensemble de la population adulte. Est-ce que tous les plus de 18 ans ont intérêt à recevoir ce rappel, à faire ce rappel?
À partir du moment où c'est recommandé, oui, on sait que ce rappel va multiplier par 10 le taux d'anticorps, en moyenne, et donc va augmenter le niveau de protection par rapport à ce variant qui est plus contagieux.
Six mois après, un rappel, quel que soit l'âge.
On va suivre les recommandations, mais globalement, c'est effectivement pour ceux qui avaient déjà droit à la vaccination.
Mais quel est le bénéfice pour une population qui est en grande partie immunisée?
C'est de maintenir le niveau de l'immunité, d'une part, à un haut niveau par rapport à un variant qui est hautement contagieux.
Bon. Il n'y a pas de risque.
Mais il n'y a pas de risque. Tout ça a été évalué. Vous pensez bien que les décisions, que ce soit l'agence européenne, l'agence américaine, l'OMS... je veux dire un mot sur ce que vous appelez la troisième dose, le rappel.
Oui.
C'est qu'il ne faut pas oublier... Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher ceux qui n'ont même pas eu de dose. Et je ne vous parle même pas du problème mondial du vaccin universel. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas si on ne vaccine pas la population mondiale.
Oui.
C'est pas un détail. Parce qu'à force de promouvoir la dite troisième dose, il faudrait qu'il y ait des doses pour tout le monde.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire, Gilles Pialou. D'autant plus que la France est l'un des pays au monde les plus vaccinés, maintenant. On a pris du retard, mais on a largement rattrapé notre retard. Et il faut s'en réjouir. Et l'épidémie semble repartir dans certains pays. Je pense à la Roumanie, je pense à l'Ukraine, je pense à Slovaquie, où il y a une poussée épidémique. Donc, on n'est pas à l'abri de cette poussée épidémique. Ce rappel, faut-il rendre obligatoire ce rappel pour le personnel soignant, par exemple?
À partir du moment où l'obligation vaccinale l'est pour les soignants, ce qui est le cas, oui, elle suivra les recommandations. Donc oui, s'il y a une troisième dose de rappel, elle sera obligatoire, évidemment.
Bien. Et j'ai encore une remarque à vous faire. Et j'ai vu ça, je crois, hier soir. La Suède suspend par précaution le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans.
Chaque pays adopte son principe de précaution. Je ne sais pas sur quoi la Suède a décidé ça. Je pense que suspension n'est pas interdiction. Premièrement, on l'a vu dans l'histoire. Et puis après, c'est à eux de pendant cette suspension d'apporter des éléments de tranquillité. Pour l'instant, je crois que la balance bénéfice-risque du vaccin n'est pas discutée.
Vaccination contre la grippe.
En faveur du vaccin, bien sûr.
Vaccination contre la grippe. La campagne va commencer à la fin du mois, le 26 octobre. Alors, j'imagine, le vaccin contre le Covid dans un bras, le rappel, le vaccin contre la grippe dans l'autre bras, aucun danger?
Après, chacun s'adapte. Aucun danger, non, mais il y a toujours, de toute façon, je veux dire, quand vous prenez un comprimé d'aspirine, il y a toujours un risque. Donc, la question, c'est pas ça.
Mais est-ce qu'on peut.
On va voir ce que sont les recommandations. On avait même dit qu'il y aurait des préparations dans une seule seringue.
Oui.
Bon, je les ai pas vus venir. Nous, on est un centre de vaccination. Quand les gens ont une préoccupation, on leur dit, de toute façon, vous pouvez mettre 15 jours de délai entre les deux injections. C'est le bon sens qui fait que s'ils ont des effets secondaires, ils se demandent pas lequel des vaccins est en cause. Donc oui, on peut faire en même temps et oui, on peut faire différer de 15 jours.
Je voulais terminer, je quitte le Covid, je voulais terminer sur le crack à Paris. On a beaucoup parlé du crack à Paris, et le crack, faut rappeler que c'est quoi? C'est de la cocaïne.
C'est entre la coca et la cocaïne.
Antiparasitaire et... Mélangé avec un antiparasitaire.
Ah non, là vous confondez avec les produits de coupe.
Ah bon, d'accord.
Toutes les drogues...
Le crack, c'est quoi exactement?
Le crack, c'est un dérivé, c'est intermédiaire dans la transformation chimique entre la substance base qui est la coca et la coke. Donc c'est un retour en arrière.
C'est un retour,
c'est très facile à fabriquer, ça se consomme sur place. C'est pour ça que le crack a explosé, notamment en Île-de-France, mais pas seulement en Île-de-France. Mais c'est la caricature du problème qui met en échec les politiques publiques depuis 30 ans. Là, les gens découvrent le crack. Et puis, il y a quelque chose qui vraiment... Moi, je suis rédacteur en chef de cette revue sur la réduction des risques.
Ça fait 20 ans. Revue, vous faites pas d'argent dessus.
C'est en libre accès sur VIH.
Libre accès, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 20 ans qu'on fait de la réduction des risques.
Une grande enquête sur le crack en Île-de-France, oui, très intéressante d'ailleurs.
La population s'est même pas aperçue que les héroïnes humaines avaient disparu. Tout d'un coup, ils découvrent les crackers. Mais les crackers, ils sont là depuis la fin des années 80. On les déplace comme ça en Île-de-France. Oui. On n'a absolument pas réglé le problème. Et en plus, sincèrement, si je puis dire un mot qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière ces consommateurs, derrière le problème des riverains, que je ne minimise pas du tout, j'ai habité dans le 10e, je sais exactement ce qu'il en est, il y a des gens qui sont en souffrance psychologique, clinique, et qu'il y a quelque chose en France qui a été inscrit, commencé par Mme Barzac en 89, inscrit dans la loi en 2004, inscrit dans le Code de santé publique et dans la loi en 2016, c'est la réduction des risques. Ce qu'on veut faire, c'est pas des salles de shoot qui est le fantasme de tous les Français. Ce qu'on veut faire, c'est des salles où on accueille ces usagers qui sont des usagers précaires.
Et on les soigne.
Et on essaye de les soigner et qu'on essaye de développer des traitements de substitution, par exemple. Pourquoi il n'y a plus d'héroïne humaine?
Oui, mais c'est parce qu'il y a des traitements de substitution. Dans les hôpitaux. Pourquoi pas dans les hôpitaux?
Mais je vous signale que la salle dite d'injection, qui est en fait une salle de consommation à moindre risque à la Riboisière, elle est accolée à l'hôpital de la Riboisière. Donc
Évidemment, les habitants, les riverains ne veulent pas voir une salle de soins.
Mais parce que quand vous avez des ministres qui disent salle de shoot, ils ont une responsabilité dans l'univers collectif de gommer le soin, de gommer le l'accueil. Vous savez, par exemple, des structures qui posent pas problème, il y en a 150 en France, les CARUD, vous savez, les centres d'accueil des usagers de drogue et de réduction des risques. C'est de l'accueil, c'est de l'accompagnement, c'est du soin, c'est du médico-social. C'est pas seulement le problème de la sécurité. Et franchement, parce que je sais que vous avez beaucoup de politique ici, mais c'est bien aussi qu'on parle un peu de santé. Et là, c'est une c'est une demande à Jean-Jacques Bourdin. Quand vous avez des politiques qui sont
en interview ici,
posez-leur des questions sur l'avenir de l'hôpital, sur comment on va régler ce problème qui date de 30 ans. Ça date de 30 ans, l'histoire du crack. Là, on le découvre, évidemment, on les déplace, et puis il y en a de plus en plus. Mais c'est un vrai problème de médico-social aussi. C'est pas seulement un problème de police.
Merci, professeur Gilles Pialoux. Vous êtes revenu nous voir ce matin. Il est 8h53. Vous êtes sur RMC et BFM TV.